Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, En attendant Godot, de Samuel Beckett. C'est le théâtre qui apporte à Samuel Beckett le véritable succès, avec En attendant Godot, pièce représentée en 1953, puis fin de partie en 1957, écrit-elle aussi en français. Autant d'intrigues vides où des personnages dérisoires sortent de clochards clownesques, comme Vladimir et Estragon, qui s'agitent en vain pour se donner l'impression d'exister, ou au contraire se figent dans une immobilité sinistre. Il parle dans le vide de sujets tout aussi insignifiants qu'eux-mêmes et sans réellement communiquer. Les dialogues ne sont qu'une inlassable répétition, un substitut à l'action, toujours vaine. Jeu d'illusion dans un espace scénique sinistre, sombre, où seuls quelques objets semblent encore garder un sens. Mais lequel ? Meubler une vie où chacun est condamné à attendre Godot, tel un sauveur qui ne viendra jamais dans un monde sans transcendance, en fait, à attendre la mort dans un instant suspendu d'une infinie durée. Samuel Beckett est né le 13 avril 1906 à Coldrina, en Irlande, dans une famille de la bourgeoisie protestante irlandaise, issue de huguenots français réfugiés en Irlande. La demeure familiale, située dans une banlieue aisée de Dublin, est une vaste maison bourgeoise. Il est le deuxième fils de William Frank Beckett, maîtreur, et de May Barclarow, une infirmière. Samuel Beckett vit une enfance heureuse, partagée entre les études, les parties de tennis, de cricket, les baignades en compagnie de son père, les randonnées à bicyclette et les parties d'échecs, loisirs qui, avec la lecture, occuperont également sa vie d'adulte et alimenteront ses œuvres. Beckett reçoit ses premiers rudiments de français et apprend le piano dès l'école primaire, puis entre, en 1915, à la Hurstforth House School, établissement multiconfessionnel, pour 4 années. Mêlant études et sport. Entre 1923 et 1927, Beckett étudie le français, l'italien et l'anglais au Trinity College de Dublin. En 1928, chargé de cours d'anglais à l'école normale supérieure, il découvre Paris, où il séjourne pendant 2 ans. Vient ensuite une période instable entre Dublin, Londres, l'Allemagne, Paris. Sa santé fragile se détériore, tout comme ses relations avec sa famille. Il est déprimé, sans argent. Mais il se lance alors dans l'écriture de poèmes, d'un roman, Murphy, publié en 1938, de nouvelles. Il est introduit dans le cercle des amis et des intimes de James Joyce, 1882-1941, irlandais comme lui de Dublin, rencontre qui marque profondément Beckett. En janvier 1937, il est victime d'une agression au couteau par un voyou, et la blessure est grave, mais c'est à cette occasion qu'il retrouve une amie, qu'il avait connu au tennis, à l'ENS, et qui sera sa compagne jusqu'à sa mort, Suzanne Dechevaux du Ménil, personne calme, réfléchie, patiente, bonne musicienne. Sa vie commence donc ainsi à se stabiliser. En 1938, son choix de s'installer en France est définitif. Il participe à la résistance pendant la guerre et surtout commence à écrire en français, comme si cette langue étrangère correspondait mieux à une sorte d'exil de soi, permettant donc de mieux restituer le vide et l'inexistence. En 1940, il se réfugie à Arcachon avant de revenir finalement à Paris et rejoindre la résistance au sein du réseau Gloria le 1er septembre 1941. Averti par Maya Perron d'une trahison, il échappe juste à temps aux arrestations et s'enfuit avec Suzanne. Aidé cette fois par Nathalie Sarotte, ils arrivent 6 semaines après à Roussillon dans le Vaucluse, où il est rejoint par un ami peintre, Henry Haydon. De retour à Paris au début de 1947, Beckett effectue rapidement un voyage à Dublin pour revoir sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 6 ans. C'est au cours de ce séjour, alors qu'il se trouve dans la chambre de sa mère, touché par la maladie de Parkinson, âgé de 74 ans, qu'il a une sorte de révélation, aboutissement d'un cheminement personnel après les années de résistance, l'éloignement hors de l'Irlande maternelle. Cette vision change sa conception de l'écriture. Il revient à Paris, convaincu que c'est là qu'il doit vivre, et se fait d'abord engager comme économe-interprète par la Croix-Rouge irlandaise qui construit un hôpital à Saint-Lô, en Normandie. Il y fait l'expérience d'une immense misère collective. Son dévouement infatigable reflète la mutation psychologique qui s'est opérée en lui, contrastant avec l'attitude de réserve et d'isolement de ses années dublinoises. Malgré les conditions matérielles difficiles, entraîné par la certitude de sa vocation et la compréhension offerte par cette révélation, il va vivre pendant 8 années une véritable frénésie d'écriture. À la mort de sa mère, il hérite d'une somme qui lui permet de faire construire une maison modeste à Ussy-sur-Marne, où il vient avec Suzanne régulièrement pour écrire au calme. Les écrits s'accumulent, et c'est Suzanne qui parvient à trouver un éditeur, Jérôme Lindon, pour les romans, mais les ventes restent modestes. Ce n'est qu'en 1953, grâce encore aux démarches de Suzanne, que Roger Blin monte la pièce en attendant Godot, premier véritable succès qui le fait accéder à la notoriété et lui apporte une certaine aisance financière. Dès lors, le théâtre prend une place nouvelle dans sa vie d'artiste, par l'écriture, mais aussi comme metteur en scène de ses pièces. En 1969, il reçoit le prix Nobel de littérature pour son œuvre qui, à travers un renouvellement des formes du roman et du théâtre, prend son élévation dans la destitution de l'homme moderne. Suzanne Beckett, son épouse, décède le 17 juillet 1989. Samuel Beckett, atteint d'emphysème et de la maladie de Parkinson, part dans une modeste maison de retraite où il meurt le 22 décembre de la même année. Il est enterré le 26 décembre au cimetière du Montparnasse. Il est vrai qu'en pesant les bras croisés, le pour et le contre, nous faisons également honneur à notre condition. Le tigre se précipite au secours de ses congénères sans la moindre réflexion. Ou bien, il se sauve au plus profond des taillis. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici? Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godot vienne. C'est vrai. Ou que la nuit tombe, nous sommes au rendez-vous. Un point, c'est tout. Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes au rendez-vous. Combien de gens peuvent en dire autant? Des masses. Ce qui est certain, c'est que le temps est long dans ces conditions et nous pousse à le meubler d'agissements qui peuvent à première vue paraître raisonnables, mais dont nous avons l'habitude. Tu me diras que c'est pour empêcher notre raison de sombrer. C'est une affaire entendue. Mais n'erre-t-elle pas, déjà dans la nuit permanente des grands fonds? Voilà ce que je me demande parfois. Tu suis mon raisonnement? Nous ne sommes tous fous. Quelques-uns le demeurent. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.